comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Musicboxtv.com, dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Bonjour Stone.
Bonjour.
Alors je dis Stone ou Annie ?
Annie, on est amis depuis longtemps quand même.
Alors ce livre donc complètement Stone que tu viens de sortir sur ton parcours de vie, une vie pas simple hein, finalement, plutôt rude côté papa, avec plus de tendresse côté maman, et puis côté grands-parents aussi, un peu des grands-parents que tous les gamins aimeraient avoir d'ailleurs.
Ah oui, j'ai eu beaucoup de chance pour ça, bien sûr. Ah oui, la maison à la campagne, les vacances, voilà, là. L'herbe, les rivières, les bains, puis des grands-parents très dynamiques. Donc toujours partant pour les pique-niques, les balades, voilà, c'est ça qui est génial.
Tu as des madeleines comme ça
Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que la maison, elle est toujours là et qu'on y va très très souvent. Pour moi, c'est vraiment ma maison d'enfance, quoi.
Alors, toute petite, déjà, tu te passionnes pour la chanson.
Ah, c'était mon rêve. Vraiment, tout ce que j'aimais est passé par là.
Maman chantait aussi.
Oui, ça a aidé beaucoup. Je pense que ma maman m'a déjà mis sur la voie. VOX ou VEE, je ne sais pas, les deux. Parce qu'elle, elle était aussi passionnée de chansons et elle comptait bien en faire son métier. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Mais c'est vrai qu'elle m'a sans doute inoculé le virus très tôt.
Alors, tu vas chanter « Rossignol de mes amours » et « Mariano » au bar pendant que papa boit un canon avec les copains.
Bien sûr, un et même deux et même trois. Non, c'est vrai que j'étais très… Ah oui, j'étais la vedette du coin. J'étais petite en plus à l'époque. Et c'est vrai que j'avais deux tubes, j'avais « Mexico » et « Rossignol de mes amours ». Ça cartonnait grave.
Voilà, mais il faut la voix quand même pour…
Non, parce que je faisais ça comme une petite fille, quoi. « Rossignol, Rossignol de mes amours ». Ça va, ça se chante.
Alors donc, tu racontes dans ce livre finalement un peu les aléas de la vie, celles de tes parents, et puis surtout ta passion pour les idoles. À l'époque, c'était les yéyés, le rock'n'roll naissant.
Ah oui, faut reconnaître, je suis tombée pile à une époque fabuleuse, enfin d'ailleurs comme tous les, comment on appelle ça, les gens de ma génération. On a eu cette chance folle d'être nés juste après-guerre. En plein baby-boom, les parents étaient en pleine reconstruction de la France avec tous les progrès que ça entraînait. Et nous, on a eu cette chance de faire partie de cette génération qui ont enfin existé en tant que génération. C'est-à-dire qu'on avait des petits moyens, mais des moyens qui n'étaient jamais arrivés avant. Sociologiquement, c'est fou parce qu'on est juste tombé à cette époque-là où vraiment on a eu tous les avantages et toutes les chances.
Alors, tu avais toute la groupie.
Ah, moi, j'étais une groupie invétérée, on peut dire.
Tu suivais les tournées, les passages des artistes. Quel souvenir tu gardes de ça ? T'es arrivé de faire le mur pour…
Ah oui, bien sûr, pas le mur à ce moment-là, parce que non, là, les spectacles que j'allais voir, moi, j'étais en province à l'époque. Donc, en fait, c'était facile, parce que bon, j'avais de l'argent de poche et je le mettais de côté pour me payer les spectacles qui passaient dans ma région, quoi. Donc, heureusement, les tournées étaient assez, à cette époque-là, même comme maintenant, étaient assez courantes, quoi. On avait beaucoup de spectacles, donc je n'en ratais pas, évidemment.
Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais franchir le pas, puisque la chanson, c'était en toi. Et
oui,
que
c'est-à-dire quand on est comme ça, en province, qu'on n'a absolument aucune connexion avec ce milieu-là, et ça reste très, très utopique, on peut dire. C'est vrai que c'était mon rêve absolu, je ne pensais qu'à ça, mais en même temps, je me disais, dans la mesure où je ne jouais pas d'instrument, que je n'avais pas du tout pris de cours de quoi que ce soit, je me disais, souhaitons que ça se fasse, mais ça restait très très flou pour moi. Il a fallu rentrer à Paris pour…
J'allais dire les aléas du déménagement.
C'est ça, l'histoire du déménagement, évidemment, ça s'est fait comme ça. Et mon père, quand il a été muté à Paris, alors là, ça a été un bonheur total. Enfin, je revenais dans la capitale et il y avait quand même beaucoup plus de facilité sur Paris qu'en province, c'est sûr.
Alors, sur la couverture du livre, bien sûr, il y a ta photo avec cette célèbre coiffure à la Stone, à la Keith Richards. Finalement, cette coiffure, elle a été ton identité d'artiste pendant
oui,
très
vrai,
longtemps.
Oui, c'est vrai. Un peu, comme on dit, à l'insu de mon plein gré. Parce que moi, à la base, comme beaucoup d'adolescents, je me cherchais un peu. Alors, j'avais fait déjà la période Françoise Hardy, tu sais, le côté… J'adorais Françoise Hardy, je l'adore toujours. D'ailleurs, j'étais donc comme elle, assez mince, avec les cheveux raides, châtains, quoi, tout à fait traditionnels. Et puis, arrivé vers 18 ans, je me suis dit, il faut que je me trouve quand même un petit look un peu plus personnel. Et c'est là que, comme j'étais très très fan des Beatles et des Rolling Stones, j'ai pris la photo de Brian Jones et j'ai coupé, pour lui ressembler. En fait, c'était ça le but final, quoi. Même à un garçon, mais voilà, pour moi, c'était le top.
Voilà, et les copains t'ont appelé Stone. Et
puis, voilà, petite Stone au petite début, Stone. Oui, c'est ça.
Alors, tu parlais justement de cette époque, des 30 Glorieuses. Tu es un peu nostalgique de cette époque
aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Non, au contraire, je suis ravie d'y avoir participé, d'avoir été là. Je mesure la chance que j'ai eue et d'avoir bénéficié de toutes ces avancées, parce qu'il y avait aussi les avancées dans la vie, hein. Il n'y avait pas que le côté showbiz, mais j'en suis pas nostalgique, je me dis tant mieux qu'on ait vécu ça, mais après il y a autre chose à vivre et les époques se succèdent et apportent du bien à tout moment, quoi.
Alors bien sûr, on ne peut pas parler de Stone sans parler de Chardin, Stone et Chardin. Tu racontes avec beaucoup de pudeur finalement ces années heureuses, ces années d'insouciance et puis le succès et puis tout ce qui a fait votre vie à la fois trépidante parce qu'il y avait le métier et puis votre amour aussi.
Oui, bien sûr. Oui, oh oui, ça a été une chance folle d'être tombée sur lui, d'avoir construit ce couple. Et puis c'est vrai qu'Eric était... même s'il était très particulier, on peut dire, c'était un personnage attachant, c'était quelqu'un d'intéressant, c'est une personnalité, et puis il était beau mec en plus, donc ce qui ne gâte rien. Non, non, c'est vrai que ça a été vraiment pour moi un coup de foudre, mon premier amour, quoi, parce que j'étais encore très jeune, et donc pour moi, que d'être tombée pile sur lui, c'était une chance folle, et puis surtout, en plus, le rêve, il était auteur-compositeur, alors ça, c'était imparable.
Voilà, mais mystérieux toujours, puisque oui. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de ton mariage, finalement, tu n'as pas connu son vrai patronyme.
Non, c'est fou, incroyable. Hein. Et même maintenant, je ne sais toujours pas ce qu'il a... On n'a jamais évoqué ça, chaque fois que je lui posais la question, il éludait très vite. Ce qu'il a, bon, je sais qu'il voulait plus porter le nom de son père parce que son père n'avait pas existé en tant que père. Donc pour lui, le nom de famille n'évoquait rien. Mais j'ai jamais su par la suite comment il a trouvé ce nom, ce prénom. Ça reste, tout ça reste extrêmement flou et ça y restera longtemps.
Voilà, alors finalement, bon, la vie, le métier, tout ça, ça a eu un peu raison de votre amour. Et il y a une phrase que tu cites dans le livre, je ne l'ai pas en tête, mais j'ai l'idée de la phrase, oui. Une phrase d'Éric Amario, ton mari actuel, donc, et qu'il te confie finalement en lui disant,
oui,
prends-en soin.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ce qui est fou.
Ce qui est fou, parce que Éric, il avait ce côté un peu paternaliste, quoi. Donc pour lui, il estimait que si... quelqu'un, disons, prenait soin de moi, il était dédouané du côté, voilà, au moins, aller entre de bonnes mains, quoi, c'est important.
Et puis, bon, vous êtes vus, revus, et finalement, retrouvés sur scène à nouveau avec la tournée H Tendre.
Oui, oui.
Ça a été difficile, de l'un comme pour l'autre
Pour Éric, oui, ça a été difficile. La première année, surtout, a été difficile, parce que lui, en fait, dans sa tête, il aurait aimé... chanter seul et puis chanter plein de chansons, alors que le but c'était pas du tout ça, c'était la tournée H Tendre comme pour tous les autres chanteurs, c'était de chanter ses tubes avant tout et de faire ça en peu de temps, quoi, parce qu'on avait chacun allé un quart d'heure, 20 minutes compte tenu du nombre de chanteurs qu'on était. Et c'est vrai que Éric, je pense, a été un peu frustré de ça, quoi. Mais bon, en même temps, il n'avait pas tellement le choix, hein, parce que là, il était dans une situation un peu difficile.
Il avait négocié un peu, quand même.
Il avait négocié, mais je veux dire que pour lui, c'était quand même essentiel de participer à cette tournée, ouais.
Alors, ce livre de souvenirs, en fait, il y a deux livres en un. Il y a ta vie avec d'enfant, ta vie d'artiste, et puis il y a tes combats.
Oui, bien sûr.
Il y a une deuxième partie. Je dis, il y a deux livres en un parce
si on veut, oui.
Voilà, on ne sent pas au départ, justement, cette implication que
c'est
tu peux avoir dans, pour la cause animale, pour le paranormal même.
Aussi, bien sûr, tout à fait.
Comment c'est venu, finalement, si on prend un petit peu ton... Ouais. Je ne sais pas, il y a plusieurs choses, on reviendra au rapport à la mort peut-être après. Mais les animaux.
Ah, les animaux, ça a toujours été, moi j'ai toujours adoré les animaux, même quand j'étais gamine, avec mes parents.
De là à partir
en commando, et c'est différent. Non, mais c'est toujours pareil, c'est toujours, moi, à chaque fois que je me suis engagée pour quoi que ce soit, c'était des rencontres. Donc on rencontre des gens, et puis les gens font passer leur passion, leur combat, Et alors moi, quand ça me touche, évidemment, j'y adhère tout de suite, quoi, c'est ça. Et c'est pour les animaux, c'est ce qui s'est passé. Déjà, j'ai toujours été entourée d'animaux, hein, ça, chez mes parents, on avait des bêtes, chez mes grands-parents aussi, mes oncles, mes tantes, tout ça, tout le monde avait des chiens et des chats. Donc pour moi, c'était normal de vivre avec des chiens et des chats, ça, c'était la base. Et puis par la suite, donc j'ai rencontré Eric pile poil, il a une petite chienne qui vient d'adopter. Alors là, pour lui, super bon point, évidemment, ça, c'était formidable. Etc. Et puis c'est vrai qu'à par la suite, j'ai rencontré. Alors c'est vrai qu'à l'époque, je faisais pas grand chose. Et puis un beau jour, comme toujours, rencontre, j'ai rencontré Stéphane Lamarre avec qui je travaille. Il est venu sur la tournée d'Achetendre nous proposer de signer un papier contre la corrida. On était à Montpellier. Alors donc, Mario et moi, on a tout de suite pris les choses en main et on a passé la pétition à toute la troupe, plus les musiciens, les techniciens, pour que chacun signe. Et puis de fil en aiguille, on a sympathisé. Et puis après, il m'a demandé si je voulais pas participer à l'association et monter des opérations quand il le faut. Et ça fait maintenant, ça fait de 2007, donc ça fait 10 ans. Et depuis 10 ans, on essaye de faire un max. On sait que c'est peu par rapport à tout ce qu'il y a à faire, mais quand même, on se dit au moins ce qui est fait, c'est toujours ça de prix, quoi.
Il y a des moments quand même, il faut être courageux.
Oui, il y a des fois où c'est un peu, enfin, c'est pas souvent, heureusement, mais il y a eu quelques coups assez durs, oui.
Alors, tu parles aussi de ta conviction qu'il existe une vie au-delà, oui. Qu'il existe même des extraterrestres. Tu es allé à Stonehenge, tu t'es intéressé tout ce qui a fait les grands succès de gens comme Adamski, ou dans les années 70, où il y avait des nuées de soucoupes volantes qui venaient nous rendre visite.
C'est ça.
Comment c'est venu cette conviction?
Alors là, c'est venu, déjà, moi j'étais aussi, même très jeune, très portée là-dessus, j'adorais les livres de science-fiction, et là, évidemment, Eric était un fou de ça. Donc, comme souvent, il n'y a pas de hasard, quoi. Comme par hasard, entre guillemets, il a un chien, et puis en plus, il adore tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est fantastique. Et moi, j'étais déjà bien branchée là-dedans, parce que j'ai le souvenir que, quand j'étais adolescente, je lisais des livres de science-fiction à mes deux petits frères. Avant de s'endormir, je leur lisais des passages de livres. Donc déjà, j'aimais ça. Et Eric, là, alors lui, il aimait ça au centuple. Alors on a beaucoup, beaucoup parlé de ça, beaucoup vu de films traitant de ça, tous les vieux films des années 50, 60 de science-fiction. On adorait ça quand on était les premiers clients.
Jimmy
Dieu et le reste. Il était très ami avec Jimmy Dieu, qui était marseillais. Donc on le recevait chez nous, qui est un monsieur passionnant. Et puis voilà, on baignait là-dedans, quoi. D'ailleurs, il faisait une collection de livres de fleuve noir de science-fiction. On en a peut-être 1000. Je les ai récupérés récemment, donc c'est pour ça que je les ai comptés, mais c'était incroyable, quoi. C'était des collections.
On avait quand même une bande d'allumés aussi.
Oui,
parce qu'il y avait
bien
des gens
sûr.
Comme Raël, etc.
C'est ça. Alors oui, Raël, on l'a rencontré par la suite aussi. Bah oui, forcément, quand on est branché là-dedans, on tombe un peu sur tout et n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que le côté, disons, fantastique, tout ce qui est du domaine de l'irréel, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Voilà. Donc plus ça a été en âge et plus j'ai lu de choses, plus j'ai assisté à des conférences. Et ça m'a amené évidemment à tous les grands questionnements sur la vie après la mort, sur la, parce que c'est très vaste, quoi. On peut taper là dans des extraterrestres. Là, il y a tout un domaine qui est tout à fait passionnant.
Alors justement, parlons de la mort, puisque il y a deux thèmes dans ton livre. Hein. Il y a tes combats pour une fin de vie dans la dignité.
Ah oui, ça bien sûr. Oui.
Ça c'est important. Oui. À quel moment tu t'es aperçu de ça? Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas toujours la.
Ah non, ça c'est des combats que j'ai découverts un peu plus tard pour connaître. D'ailleurs, curieusement, c'est ma maman qui m'en a parlé en premier. Et c'est vrai que j'ai adhéré à la DMD, maintenant il y a une dizaine d'années à peu près, donc c'est relativement récent. Et hélas, ma maman n'a pas pu bénéficier, parce qu'elle n'était pas en état de le faire, de pouvoir partir en Suisse pour mourir dignement. Malheureusement, ça n'a pas été son cas. Mais moi, dès l'instant où j'ai, pareil, rencontré Jean-Luc Romero, qui est le président de la DMD, ça a fait tilt aussi. Et c'est toujours en même temps des belles rencontres d'amitié et de même combat, quoi. Donc moi, j'ai été tout de suite convaincue et je lui ai délégué de mon arrondissement et j'essaye au maximum de faire ma part de ce que je peux faire, quoi.
Tu sens qu'il y a une évolution?
Oui, il y a une évolution. Ah oui, beaucoup. Oui. Non, ça avance, c'est lent. On aimerait bien que ça aille plus vite. Mais malgré tout, quand même, ça avance.
Alors, tu sors ce livre complètement stone, et en lisant le bouquin, on apprend que tu as rencontré une voyante qui a prédit que tu allais mourir cette année.
Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Enfin, cette année ou l'année prochaine, disons entre 70 et 71. Alors donc, ça peut mener jusqu'à juillet 2018. Oui, ben, on verra bien. Je veux dire, tout ça, c'est que des suppositions, des prédictions. Mais bon, c'est vrai, il faut reconnaître
qu'elle a... Mais c'est une charte quand même sur la tête. Hein.
Oui, non, même pas, non. Parce que bon, c'est vrai que quand on prédit ça, quand on est très jeune, ça paraît complètement lointain. Et... Mais plus le temps passe et plus on se rapproche de la date. Il faut reconnaître que cette dame avait prédit quand même des choses qui se sont avérées exactes. Donc, elle a, surtout qu'à l'époque, évidemment, avec Eric, on était tous les deux, on n'était pas du tout connus. Et elle nous avait prédit du succès, elle avait vu qu'on était dans le spectacle, elle nous avait prédit qu'on se séparerait. Alors, on venait juste de se marier, ça nous paraissait bizarre, mais bon. Et qu'on aurait d'autres enfants avec d'autres compagnons, etc. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses qui s'est révélée exactes. Alors, est-ce que l'autre prédiction se révélera exacte? On ne sait pas. Mais moi, comme je suis tout à fait sereine par rapport à la vie après la mort, puisque je pense qu'on ne part pas tout à fait, quoi, qu'on va vivre autre chose, ça ne fait pas plus peur que ça. C'est plus, en fait, quand on meurt, ce n'est pas les défunts qui sont à plaindre, c'est ceux qui restent. Toujours pareil.
Voilà, bien, j'espère que cette voyante, oui, on verra pourra bien la contredire dans quelques
sans
mois.
Doute, sans doute.
Voilà, je l'espère de tout cœur. Donc, merci Stone. Et puis,
merci.
Voilà, avec ce livre, bien, je pense que celles et ceux qui vont le lire vont y découvrir qui est la vraie Stone, au-delà de la chanteuse de Bluette.
Oui.
Tu écris et tu souhaites que l'on retienne surtout de toi tes combats dont on vient de parler et que ton passage sur Terre ait été utile pour faire avancer positivement les choses, ton aventure à toi finalement.
C'est bien dit, bravo.